Actu SF, les podcasts.
Bonjour à toutes et à tous. Alors, dans la précédente table ronde, ils nous ont expliqué qu'on allait finalement tous mourir. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'intéresser à ce qui se passe après, à nos corps après la mort. La connaissance de la mort, justement, la conscience de sa propre mort, que l'homme est a priori le seul être vivant à posséder, a suscité depuis la préhistoire des représentations et des pratiques d'une incroyable diversité. Toutes les façons de mourir ne sont pas équivalentes culturellement, mais la corruption ou la décomposition du corps est toujours perçue comme une souillure, et nombreux sont les rites auxquels les proches du défunt ou de la défunte doivent se soumettre, car la mort est encombrante, la mort est perturbante bien sûr, et la mort est aussi, on va le voir, polluante. Alors à l'heure où nous recyclons nos emballages, transformons nos déchets organiques en compost, à l'heure où nous reconditionnons nos vieux objets, doit-on repenser nos morts, repenser nos rites? Si oui, de quelle façon? Notre culture, notre morale nous permettent-elles seulement d'y songer? Très vaste question, alors que nous venons de passer la Toussaint et la fête des morts, justement. Alors pour en parler, j'accueille François Michonnerard. Bonjour. Vous êtes ex-directeur des services funéraires de la ville de Paris, auteur, rapporteur du groupe de travail du Conseil national des opérations funéraires auprès du ministère de l'Intérieur, qui réfléchit actuellement sur les nouvelles techniques funéraires. À vos côtés, Miguel Jean, bonjour. Vous pouvez prendre vos micros tout de suite, hein, si vous voulez. Vous êtes directeur de l'espace de réflexion éthique des Pays de la Loire au CHU de Nantes et docteur en biologie de la reproduction. Alors, ça ne nous intéresse pas aujourd'hui, mais c'était quand même amusant de le mentionner. Et Karim Sitayeb, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, quant à vous, mais est-ce utile de vous présenter encore une fois, chercheur à l'Institut du Thorax à Nantes, et vous travaillez notamment sur les cellules souches. Alors, ma première question, qui est un peu une question introductive au sujet, pourquoi finalement est-ce que c'est important de penser au corps après la mort, François Michonnerard? Quels sont les enjeux de ces réflexions? Pas maintenant.
Après. D'accord. Je pense que dans tous les cas, c'est important de penser au sujet. Vous avez vu, on vient de passer la Toussaint, donc il y a eu plein de sujets un peu bateaux, mais qui évitent tous une vraie problématique actuellement, c'est une révolution dans les pratiques funéraires. Parmi les révolutions, c'est la crémation, par exemple. Une pratique complètement marginale il y a une génération, c'était 1% des pratiques, c'est maintenant quasiment 40%. Il y a la perte de la question religieuse. Depuis la nuit des temps, la mort avait été gérée par la magie et la religion, et là, d'un seul coup, on a plus de 40% de la population qui est totalement non-croyante et 90% qui est non-pratiquante. Et puis, il y a également une sorte d'inversion qui se fait, alors que les obsèques, donner sépulture, c'est un mythe fondateur de l'humanité, c'est le mythe d'Antigone. Hein, et bien, d'un seul coup, on demande aux vieux de s'occuper de leurs propres obsèques au travers des contrats d'obsèques. Donc, on a une véritable révolution qui se passe. Mais comme Eros et Thanatos font mauvais ménage, les politiques ne supportent pas de parler de ce sujet-là. Et c'est un sujet qui n'est pas traité sur le plan politique, alors que c'est un sujet qui est éminemment politique.
Est-ce qu'on peut dire, Miguel Jean, je vais me tourner vers vous, est-ce qu'on peut dire que, d'où que l'on soit, finalement, notre rapport à la mort est corrélé à notre rapport à l'existence ? Mais peut-être que j'enfonce une porte ouverte en disant ça.
Non, probablement, vous avez raison. Mais juste, je rebondis sur ce qui vient d'être dit, pour être tout à fait d'accord avec vous. En même temps, je ne suis pas sûr que les citoyens soient très enthousiastes à l'idée de parler de leur propre mort. Je dis ça parce que si on regarde les chiffres du nombre de directives anticipées, vous savez, ces documents qu'on peut remplir pour dire la façon dont on voudrait que se termine notre existence, au cas où on ne soit pas en mesure de le faire au moment voulu, seulement 14% des Français ont rédigé des directives anticipées. Ça veut dire que ce n'est pas une préoccupation de tous les jours. Alors, on sait que ça fait partie de l'existence, mais en même temps, c'est très compliqué de se projeter dans ce futur qu'on ne souhaite pas, finalement.
En tout cas, cette diversité d'approches, elle explique aussi la diversité des rites. C'est quoi les rites funéraires aujourd'hui, François Michonnerard ?
Alors, ça dépend de... qu'est-ce qu'on entend par les rites funéraires ? Il y a les pratiques funéraires. Les pratiques funéraires, c'est quatre sujets principaux. D'abord, c'est donner, assigner une place physique aux défunts pour protéger la société de la pourriture du cadavre. Hein. On a, à travers que ce soit l'embaumement, l'inhumation, la crémation, livrer les corps aux rapaces, comme les Parsis du nord-est de l'Inde. Dans tous les cas, on se protège du corps. Deuxièmement, on va assigner une place symbolique aux défunts. Et par exemple, dans la crémation, quelque chose d'absolument essentiel, on va faire passer on va le faire passer dans une urne de 2 litres. Donc il y a tout un passage symbolique qui va être à faire. Il y a ensuite rétablir l'ordre de la société qui vient de perdre un de ses membres et qui est déstabilisé. Et puis ensuite, il y a initier le travail de deuil. C'est tout ce qui est rite, cérémonie, etc. Ouais.
Voilà. Si je peux rajouter une chose, oui, aussi sur la chose intéressante sur l'évolution des rites funéraires avec l'évolution de notre civilisation et qui permet, donc là c'est vraiment un domaine plus de mon collègue Jean-Sébastien Steyer, ça permet aussi dans des études de paléontologie, par exemple en paléoanthropologie, de pouvoir dater certains sites en fonction des rites funéraires qui ont été pratiqués et donc de le corréler avec l'état de civilisation des personnes qui étaient là à ce moment-là.
D'un point de vue anthropologique, donc.
Oui. Mmh. Ah, d'accord.
Non, les deux premières.
Non, il est de première. Ah, je ne sais pas, ça passe pas les diapos. Ouais.
Okay. C'est bon ?
C'est bon ? D'accord. Donc, c'était juste un petit avertissement qu'on met en général quand on commence à parler de la mort, parce qu'on a souvent du mal à réfléchir sur la mort. On ressent beaucoup la mort, et y compris chez les universitaires, parfois, de temps en temps, on a des dérives absolument spectaculaires. Donc, je disais, les rituels funéraires, C'est quatre fonctions. C'est tout, c'est bon.
Par rapport à votre dernier point, justement, aider les endeuillés à surmonter la rupture d'un lien affectif, ça, c'est un point important, puisque finalement, est-ce qu'on peut vraiment dissocier la question du deuil de celle des rites funéraires ?
C'est difficile. Alors, les rites funéraires ne peuvent pas tout faire, mais les rituels sont extrêmement importants. Le fait qu'il y ait une assemblée, le fait qu'il y ait un rituel propre, c'est obliger les personnes qui viennent de vivre un drame tout à fait individuel à vivre les mêmes choses que des milliers et des milliers de personnes ont vécu avant qu'elles et qui s'en sont sorties. Donc, c'est leur permettre de se rendre compte qu'eux aussi vont pouvoir s'en sortir. Et puis, les rituels funéraires, pourquoi c'est extrêmement important ? Parce que c'est le dernier moment solidaire avant un cheminement de plus en plus solitaire dans le deuil. C'est devenu morbide de parler de la mort, extrêmement difficile d'en parler. On ne porte plus de signes extérieurs du deuil.
Et donc, d'ailleurs, on ne parle plus de la mort, on parle de la fin de vie.
On est bien d'accord. Oui. On édulcore, hein, comme ça, c'est une habitude de la société. Ça.
Je sens que Miguel Jean va réagir.
Non. Alors, OK, mais la mort est un événement, on va considérer ça biologique. Hein, et, bon, mais il y a tout ce qui précède la mort. Et cette fin de vie dont on a dit que le citoyen pouvait se la réapproprier, ça, c'est un souhait quand même du citoyen. C'est d'être en mesure de pouvoir, le moment venu, décider de ce qui va lui arriver. Bah, vous connaissez tous et toutes la fameuse loi Claeys-Leonetti 2016. Alors, elle a été un peu dévoyée parce que dans les médias était passée l'idée qu'on pouvait décider de s'endormir pour ne pas souffrir et mourir. Alors, ce n'est pas tout à fait ça, la loi Leonetti. En revanche, on a, et c'est ce que j'ai dit juste avant, capacité d'écrire, la directive anticipée, la façon dont on pense les choses pour cette fin de vie. Et même désigner une personne de confiance qui, le moment venu, pourra parler à votre place, si vous êtes incapable de le faire, pour dire Voilà, on ne peut pas aller trop loin, l'obstination déraisonnable, etc. Mais on pourra y revenir.
Alors là, on a parlé de... Enfin, vous venez d'évoquer la mort biologique. Dans la plupart des sociétés traditionnelles, finalement, on considère que la conscience de l'individu perdure, continue à exister, qu'il y a une forme de vie après cette mort biologique, après la mort physique. Est-ce que ça n'explique pas un petit peu cette dualité entre la préservation qu'on voudrait avoir des corps et en même temps l'encombrement que c'est que d'avoir des corps à gérer, finalement?
Pour en avoir discuté il n'y a pas très longtemps avec des soignants, dans le cadre de notre activité à l'espace éthique, on sollicitait pour qu'ils nous donnent leur perception de ce moment dont on parle là en ce moment, notamment la toilette mortuaire. Et quand on discute avec des aides-soignantes, elles expliquent très bien la façon dont, alors que la personne est décédée, elles lui parlent, lui disent ce qu'elles vont faire, de la même façon qu'elles le faisaient quand elle était encore vivante. C'est-à-dire que même si le décès est survenu, même après le décès, ces soignantes, en tout cas, considèrent que c'est toujours une personne digne de respect et digne d'attention soignante.
Ça, cette question du respect, elle compte aussi beaucoup dans notre approche et on y reviendra un petit peu plus tard. Quelle est finalement la part d'héritage religieux, quelle que soit la religion, dans notre approche, dans notre rapport à la mort et au corps des défunts, François Michonnera?
Mais comme je disais tout à l'heure, la mort, ça a été une affaire de religion, et exclusivement une affaire de religion. Et ça a été toute la difficulté qu'on a actuellement, là je parle en tant que professionnel du funéraire, c'est de permettre aux endeuillés de vivre des rites, qui soient des rites civils, qui donnent du sens. Alors c'est pas parce que c'est pas parce qu'on est dans des rites civils qu'on peut pas avoir de spiritualité. Et c'est important d'ailleurs d'avoir cette spiritualité. Donc... on a beaucoup travaillé sur l'ordonnancement d'une cérémonie civile qui va avoir un certain nombre d'étapes. Hein, on va faire monter l'émotion. Ça va être l'évocation du défunt qui est souvent faite par les proches. Ensuite, on va relier le défunt à l'ensemble des personnes qui sont dans l'assemblée. Parce que la personne qui est tout au fond dans la salle, etc., elle a peut-être plus de peine que la personne qui est devant parce qu'elle jouait aux cartes tous les jours avec le défunt. Enfin, il y a des liens qui sont à créer comme ça, reliés, religués, religion. Hein, ça va ensemble. Ensuite, on va donner du sens. Donner du sens, c'est évoquer un au-delà. Un au-delà qui peut être totalement matérialiste, c'est simplement le fait que les molécules qui composent notre corps, dans tous les cas, vont retourner à la nature dans une sorte de grand cercle qui va permettre de faire revivre des plantes, des animaux, etc. Et puis ensuite, on va permettre à chacun un adieu individuel. Ensuite, clore la cérémonie, dire le devenir des cendres, par exemple, lorsqu'il y a crémation, parce que la novation de cette pratique-là, c'est que les cendres sont nomades, elles peuvent se balader n'importe où. Or, la mémoire a besoin de points fixes. Et puis ensuite, viendra le temps des condoléances, des repas, etc. Donc il y a tout un ordonnancement qui est inscrit dans notre connaissance sociale qu'il faut réinventer pour réadapter en dehors de la religion.
Quand on parle justement d'un sujet comme la mort, on fait appel à la sociologie, on fait appel à la psychologie ou encore à l'anthropologie. Quel rôle est-ce que la médecine, et là je vais me tourner vers Miguel Jean et Karim Sitayeb, quel rôle la médecine ou la biologie peuvent-elles jouer dans ces réflexions aujourd'hui?
Ce qui vient en premier, enfin moi en tout cas, et ce n'est pas ma discipline évidemment, ce qui vient en premier, c'est la capacité que ces corps qui ne sont plus des personnes vivantes, puissent être des donneurs d'organes. Hein, et ça, c'est une dimension qui, évidemment, intéresse la médecine. Pour autant, mais je reviens avec ce que je disais tout à l'heure sur les directives anticipées, on voit bien le malaise que crée cette question du don d'organes et la façon dont beaucoup d'entre nous, et je me mets dedans, ne sont pas si à l'aise que ça avec cette capacité que... on pourrait avoir, une fois décédé, de donner ses organes. C'est très compliqué. En tout cas, dans notre pays, il y a d'autres pays, d'autres civilisations où ce n'est pas les mêmes difficultés. Mais en France, c'est compliqué. Ce n'est pas simple. Hein, le don d'organes reste une vraie difficulté. On voit bien, enfin, à Nantes, on est un centre de greffes importants dans le Rhin notamment, et il suffit d'en parler avec les collègues, c'est récurrent ces difficultés de don d'organes. Et puis on a vu comment les évolutions réglementaires pouvaient faire tousser, mais...
La réglementation actuelle, juste pour la préciser, c'est qu'on est tous et toutes donneurs et donneuses d'organes par défaut, sauf si on stipule le contraire.
Oui, c'est bien ça. Voilà, exactement. Si on se fait enregistrer sur un site, etc. Mais il y a des dispositions réglementaires comme le Maastricht 3, par exemple, qui sont des moyens que se donne la médecine, ou en tout cas auxquels réfléchit la médecine, pour justement augmenter ce potentiel de don d'organes, faute de d'organes suffisamment nombreux, hein, pour sauver des vies. Mais c'est compliqué, cette idée. C'est très compliqué. Hein. Et puis, moi, ce qui me gêne à la fois, c'est qu'il y a une nécessité, une logique, on va dire, arithmétique, à augmenter le nombre de donneurs pour sauver des vies. Et ça, on est tous d'accord. Puis, il y a une dimension individuelle qui fait qu'on est tous différents, avec chacun notre histoire, nos religions, nos rites, etc. Et on a du mal à avoir une dimension collective dans ce raisonnement. Hein, c'est une somme d'individualité.
Mais peut-être parce que justement, on ne le raisonne plus de façon collective, ou en tout cas de moins en moins. Karim Sitayeb, vous vouliez compléter cette réponse ?
Oui, donc surtout par rapport au don d'organes. Donc effectivement, il y a on manque d'organes pour les personnes qui ont besoin d'une alternative à une maladie particulière ou à un état qui fait qu'ils ne pourront pas survivre. Et tous les organes ne sont pas toujours en condition de transplantation. Et donc, il y a une possibilité de les utiliser en recherche pour étudier plutôt des aspects de physiologie ou à l'état cellulaire, des cellules qu'on pourrait isoler de ces organes pour pouvoir les étudier en in vitro au laboratoire. Ce qui commence à émerger aussi, c'est en fait d'utiliser, donc c'est ce que j'avais évoqué plus tôt au cours du festival, en fait d'utiliser ce que Mère Nature nous a donné de mieux, c'est-à-dire l'organe en lui-même comme un réceptacle de cellules pour pouvoir être recellularisé et fonctionnel pour un don d'organe. Donc l'idée, en fait, c'est de perfuser un organe qui, par exemple, n'est pas pertinent pour la transplantation parce que les cellules sont endommagées, elles sont en mort cellulaire avancée ou dégradée, de perfuser cet organe avec un fluide qui va permettre de sortir toutes les cellules spécifiquement et de garder l'enveloppe qui contient les cellules. Et on a une espèce d'éponge, en fait, avec une géographie spécifique de protéines qui permet aux cellules spécialisées d'avoir leur fonction. Et ensuite, on amène de nouvelles cellules dans ce squelette. Ces cellules vont reconnaître leur niche et vont coloniser normalement, naturellement leur niche et s'organiser pour reformer un organe. Et donc, essayer d'aboutir, enfin, que ce processus aboutisse à un organe mature, fonctionnel, qui soit utilisable en transplantation.
Donc là, on est vraiment dans le recyclage en tant que tel.
Ah, tout à fait.
On part d'un organe mort, enfin biologiquement mort, pour lui redonner vie.
Voilà, on utilise un aspect qui est encore sauvable, donc c'est cette structure qui est très complexe et donc qui nous permet ensuite de repeupler et d'obtenir quelque chose de fonctionnel.
C'est un petit peu, on se rapproche du mythe de Frankenstein en disant ça.
Je ne sais pas, parce qu'en fait, c'est un peu hybride. Dans le mythe de Frankenstein, il y a des parties de différentes personnes. Là, en fait, l'idée, si on veut pousser le concept plus loin, c'est qu'on peut prendre cette enveloppe d'une personne décédée, donc l'enveloppe d'un organe, sortir les cellules, et en fait, on peut, par exemple, une personne qui a besoin d'une greffe d'organe qui a peu de temps, on peut refaire des cellules souches à partir de cette personne, les différencier dans les différents types cellulaires nécessaires pour repeupler l'organe, et ensuite l'amener dans ce squelette. Donc la transplantation, en fait, se fait avec les propres cellules de la personne. Donc c'est du Frankenstein, mais à moitié.
Ouais. D'accord. On va rester sur la science, finalement, puisqu'on sait que certaines personnes font don de leur corps à la science. Donc la science peut réparer les vivants via le don d'organes, on vient de l'aborder, mais il peut aussi servir plus généralement à la recherche. De quelle façon, Karim Sitayeb ? De quelles autres façons, puisque vous venez d'en aborder.
Bah, après, nous, c'est plutôt l'utilisation, donc, de En fait, en biologie, on travaille beaucoup avec des modèles. Donc, les modèles peuvent être des modèles animaux, des modèles cellulaires. Les modèles cellulaires, souvent, sont basés sur des cellules issues de tumeurs ou des cellules qu'on dit immortalisées, qu'on peut garder en culture suffisamment longtemps pour pouvoir étudier une maladie ou des processus physiologiques. Et en fait, le fait d'obtenir des organes qui ne peuvent pas être utilisés pour la transplantation nous permet aussi de dériver des cellules qu'on appelle des cellules primaires. Donc, c'est des cellules fraîches qui gardent leur fonction pendant quelques jours, mais qu'on ne peut pas maintenir dans le temps et qui nous permettent vraiment d'étudier des fonctions matures telles qu'on peut les avoir au niveau du corps humain.
Donc, y compris sur des organes qui ont dû vécu, si je puis dire.
Tout à fait, oui.
D'accord, ou abîmés. Autre problématique assez récente, hein, et probablement encore plus récente que toutes ces réflexions sur la mort, c'est celle de l'impact écologique de notre mort via l'inhumation ou la crémation, on a commencé à l'évoquer, l'explosion démographique, la raréfaction des terrains ou encore l'obligation de se débarrasser, hein, même si le mot peut paraître un peu cru, de plus en plus de corps, a un impact sur notre environnement, un impact direct ou indirect. François Michonnerat, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus en détail via vos présentations, voilà, l'impact environnemental de l'inhumation, de la crémation.
Voilà. Voilà. Puisqu'on parle de recyclage, si on parle de recyclage, il faut parler de process. Et donc là, je vais faire appel à mon ancien, à un ancien métier d'ingénieur au début de ma carrière. Et je fais partie d'un groupe au niveau européen qui s'appelle European Crematoria Network, où on a beaucoup travaillé sur ces questions-là. Et donc, quel est le process, par exemple, de la crémation ? Vous prenez un crématorium, donc un crématorium, il y a un appareil de crémation, des dispositifs de filtration, et puis une cheminée. Vous introduisez un corps d'un défunt moyen, 80 kilos. Voilà. au bout de 1h30, vous avez des calcins qui sont des ossements qui sont encore reconnaissables. On reconnaît un fémur, un occiput, etc. Tout ça, ça va être pulvérisé et vous allez mettre ça dans un petit pot de 2 litres. De cendres. Ce sont les cendres humaines, exactement la même protection qu'un cadavre. Quelqu'un qui ouvre une urne et qui la jette, eh bien, c'est comme la violation de sépulture, 1 an d'emprisonnement, et encore plus s'il y a une dimension religieuse derrière. Vous avez tout le monde terminant sa vie à des prothèses, d'abord dans la bouche, mais des prothèses de hanches, de genoux, etc. Et donc, ce sont des métaux précieux qui sont recyclés. Et par exemple, à Paris, le crématorium du Père-Lachaise et celui de Champigny, ils recyclent un certain nombre de tonnes de métaux qui représentent 120 000 euros par an. Tout ça, c'est reversé à une fondation qui finance des projets de recherche. Donc, s'il y a des projets de recherche universitaires autour de la mort, on peut les financer grâce à ça. Ensuite, naturellement, il y a des réactifs pour filtrer les fumées, parce que les fumées sont toxiques. Donc, on va retirer dedans le mercure de l'amalgame des dents, les dioxines qui sont produits par les dioxines, les furanes, les NOx, etc. Donc, tout ça, ça va être filtré. Et donc, on va avoir des déchets ultimes, dangereux, à traiter. Et puis, ce qu'on imagine en général absolument pas, c'est que 95% du corps va partir en fumée sous forme de H2O, CO2, CO, etc. Donc dans la cheminée. D'où la question que je disais tout à l'heure, hein, sur le plan symbolique, il faut, en cours d'une cérémonie d'obsèques, il va falloir faire passer le cadavre qui est dans son cercueil, qui a une taille enfin anthropomorphe, hein, comme, à l'urne funéraire dans laquelle il va être. Si on met au regard l'inhumation, on reprend le même cadavre qui pèse 80 kilos, on va obtenir exactement le même résultat avec des ossements qui vont être réduits. Ça prendra simplement un tout petit peu plus de temps, en général 3, 4, 5 ans. Mais les Espagnols sont capables de faire ça en moins d'un an en mettant dans le cercueil des petites bactéries qui vont accélérer le processus de décomposition. Tout ce qui est prothèse, etc., va partir dans la terre, en général, n'est jamais récupéré. Donc, c'est de la pollution et c'est du gâchis de ressources.
Donc, petite parenthèse, je me permets de vous interrompre. Sur les prothèses, les vis, etc., ce n'est prélevé que dans le cas de la crémation. En amont de la crémation, on est bien d'accord?
Non, c'est en aval de la crémation. Après, c'est-à-dire que la crémation se produit, on obtient d'un côté les ossements, comme ça, et puis ben, dans la, sur la sole du four, on a la prothèse de hanche. Une prothèse de hanche, c'est long comme ça. Hein, donc, et dans tous les cas, on ne va pas la mettre dans l'urne, on ne va pas la rendre aux gens, donc c'est valorisé autrement. Et puis, donc, il y a les produits de la décomposition du corps, qui sont assez toxiques, qui risquent d'aller dans les nappes phréatiques, etc. Et vous avez naturellement du CO2, du méthane et du CH4, hein, du méthane. C'est les feux follets des cimetières qui vont partir. Voilà, deux modes de sépulture, les deux seuls actuellement autorisés en France, vus d'un point de vue écologique.
Alors, ces deux procédés... excusez-moi, Miguel, vous voulez réagir ?
Oui, non, mais c'est... C'est intéressant. Juste, ça m'a fait réagir le mot cadavre. Parce que dans les interviews dont je parlais juste avant, quand on allait tendre le micro aux soignants dans les hôpitaux, dans les EHPAD, et qu'on leur demandait comment ils nommaient la personne après le décès, aucun n'a employé le mot de cadavre. Et ils continuent à l'appeler par son nom. C'est assez amusant. Ou alors, ils disent le défunt, mais dès lors qu'ils s'adressent à la famille, ou même lorsqu'ils parlent entre eux, ils donnent encore le nom, madame un tel, monsieur un tel. C'est-à-dire qu'ils restent de l'humanité même après la mort. Et là, j'en vois pas beaucoup. Oui, mais vous avez raison, on dirait un processus industriel.
Mais c'est en quelque sorte un processus industriel.
Alors, j'ai une autre question, je peux poser une question. Est-ce qu'on n'a pas tendance à favoriser la crémation, justement, pour récupérer tous ces prothèses?
Non, il y a d'abord sur le plan éthique, et ça c'est un point important, même si la réglementation ne dit rien actuellement en France, il nous a semblé toujours évident, et il semble évident que ça doit être que la récupération des métaux et notamment l'argent qu'on peut en tirer doit être non lucratif. C'est-à-dire que c'est pas une entreprise privée qui peut s'approprier ce genre de choses. Et c'est pour ça que au service funéraire dans la société d'économie mixte que je dirigeais, on avait créé une fondation. L'intégralité des sommes sont versées à cette fondation et qu'il y a un comité exécutif qui est sous égide de la Fondation de France et qui finance que des recherches.
Ces deux procédés que vous venez de nous étudier, c'est donc des procédés légaux, l'inhumation, la crémation, qui sont en tant que tels énergivores d'un point de vue méthode. Mm-hmm. Le corps, vous nous l'avez expliqué, le corps enterré par sa décomposition, les produits qu'on y injecte pendant l'embaumement, avant la mise en bière, et pendant la thanatopraxie, mais aussi donc, les prothèses qu'il peut comporter sont des polluants. Et la question des conservateurs pendant l'embaumement, elle est relativement primordiale finalement, puisque elle empêche les corps de se décomposer aussi vite qu'ils le devraient, non?
Alors, sans doute, il n'y a aucune, actuellement à ma connaissance, aucune étude scientifique qui a été faite sur le ralentissement de la décomposition des corps dû, alors, un, aux conservateurs qu'on avale en permanence dans notre nourriture, et puis deux, aux soins de conservation qui sont faits et qui théoriquement ne devraient plus être efficients au bout de 15 jours, 3 semaines. Dans la pratique, ça dure beaucoup plus longtemps. Mais ça serait justement, je pense que ce serait un sujet de doctorat qui serait assez amusant.
Et ben voilà, le message est lancé si ça intéresse quelqu'un ou quelqu'une. Du coup, alors une fois qu'on a dit ça, quelles sont les alternatives écologiques, si je puis dire, à la crémation et à l'inhumation?
Alors en France, il n'y en a pas. Mais il y a un certain nombre de techniques qui sont explorées ailleurs à l'étranger. Il y a là, par exemple, la résommation. La résommation, c'est un procédé qui est autorisé au Canada, aux États-Unis, qui a été pratiqué en Écosse, qui va être autorisé sans doute aux Pays-Bas très prochainement et qui est étudié sérieusement en France. C'est un des sujets dont on discute au ministère de l'Intérieur, hein, même si c'est pas tout de suite. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, on a une sorte de grosse cocotte minute, puisque c'est les sous-pressions dans lesquelles on met le corps avec de la soude, de la potasse. Toutes les chairs, c'est du desktop, hein, en gros. Le corps est dissous et qu'est-ce qu'on récupère? Mais comme dans l'inhumation, comme dans la crémation, on récupère des ossements qu'on va sécher et qu'on va pulvériser. Et vous voyez, le promoteur du procédé est extrêmement content de ce qu'il obtient. Les os sont vraiment tout blancs. C'est magnifique.
Le traitement de la matière organique, il a résolu quelque chose ou...
Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que quand il avait présenté son procédé il y a une dizaine d'années, il présentait ça, c'est un Écossais avec son accent, et en racontant qu'il obtenait une sorte de Dorian Joyce, et qu'il dit, mais qu'est-ce qu'on en fait de Dorian Joyce? Et aux égouts. C'était un peu court et il s'était aperçu au regard des réactions qu'il avait eues qu'il fallait faire autre chose. Donc maintenant, il y a un petit dispositif d'épuration avant d'obtenir d'un côté de l'eau, de l'autre côté des matières organiques qui peuvent être utilisées comme engrais, etc. Mais c'est pas pire, hein, je veux dire, être écrasé par 2 tonnes de terre en train de pourrir, être brûlé dans un four de crémation ou être dans cette sorte de cocotte-minute. Après, c'est l'imaginaire qui fait ça. Le défunt qui est au cimetière, il repose dans sa dernière demeure. Hein, on n'imagine pas ce qui se passe réellement. Et il y a 2 autres procédés qui sont actuellement promus. Il y a l'humulisation, alors qui sont exactement à l'opposé. Un qui se voudrait vraiment complètement naturel, c'est-à-dire mettre le cadavre dans un tas d'humus pour qu'il s'humuise, qu'il rejoigne la nature là, le plus rapidement possible. Et on va obtenir quoi ? Des ossements, naturellement. Et l'autre qui est développé plutôt dans les pays scandinaves, qui est très technologique. Donc on prend le défunt, on le congèle avec de l'azote liquide à moins 196 degrés. On procède à une lyophilisation, c'est-à-dire un dessèchement à froid, hein, comme pour les Nescafé. On vibre. Tout ça, ça devient de la poudre. Et cette poudre-là, on retire naturellement les métaux, hein, et les différents. Et cette poudre-là, on la met dans un sac biodégradable qu'on met au pied d'une plante qu'on va faire pousser.
C'est voilà, ce qu'on appelle les biocimetières.
Alors, c'est pas exactement le biocimetière. Biocimetière, c'est plutôt l'humulisation, justement. C'est la, voilà.
Et là, ça donne lieu à des vrais parcs. Enfin, ce sont des parcs dans lesquels les gens peuvent se balader.
Ça pourrait donner lieu à, parce que ce n'est pas encore autorisé nulle part. Mm-hmm. Ni l'un ni l'autre de ces 2 procédés, mais ils sont à l'étude. Donc, vous voyez, c'est amusant parce qu'on parle de science-fiction, mais il y a des choses qui sont en réflexion, y compris sur la chose la plus ancienne, la plus traditionnelle, le plus vieux métier du monde, croque-mort.
Et pour la promession, qu'est-ce qui se passe avec les parties ajoutées du corps humain, les broches
On les récupère. Hein.
C'est récupéré.
On les récupère. Et alors là, comme dans le cadre de l'aquamation, on obtient, les prothèses ressortent, elles sont absolument pas brûlées, donc elles n'ont pas brûlé comme dans un appareil de crémation, elles sont nickel, si je puis me permettre ce jeu de mots.
Mm-hmm. Dans le cadre de l'humulisation, on est vraiment dans l'idée de faire des corps, de faire du compost avec des corps.
Oui, tout à fait.
On est vraiment dans cette idée-là. Et finalement, c'est pas illogique, puisque si un corps en décomposition, c'est un fertilisant quelque part. Mm-hmm. Miguel Jean.
Si on considère que c'est un objet, oui, je suis assez d'accord. Par contre, si on s'interroge sur son statut de sujet, mm-hmm, ça coince un peu. Moi, j'avais une question. C'est bien, mais qui choisira dans l'avenir le mode technique ? Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est la façon dont les sujets, mm-hmm, vivants peuvent
s'emparer de cette question-là.
À la fois s'en emparer et consentir à ce qu'on fera de ce qu'ils seront devenus. Mm-hmm. C'est pas la même chose.
Alors ça, c'est une question absolument passionnante. Si on regarde sur le plan strictement légal, une des lois assez fondamentales, des premières lois sur la laïcité qui a été votée, hein, avant l'Église, l'école publique laïque obligatoire, avant la séparation de l'Église et de l'État, etc., ça a été très symboliquement, au début de la Troisième République, la loi sur la liberté des funérailles. Qui dispose que chacun a le droit de choisir le mode de sépulture, donc inhumation ou crémation, et le caractère religieux ou non de ses obsèques. Hein, c'est une loi très fondamentale, et 6 mois d'emprisonnement, hein, si on y contrevient. C'est déjà appliqué, mais donc, sur le plan légal, c'est le défunt qui doit choisir. Maintenant, Un, ce qu'on constate, c'est que les dernières volontés des gens sont franchement pas toujours respectées. Même très souvent, elles ne sont pas respectées. Et ce qu'on constate également, enfin ce à quoi on peut réfléchir, c'est que à quoi servent les obsèques ? Les obsèques, ça a toujours été fait pour les vivants. C'est un rituel qui aide les vivants à surmonter le travail de deuil. C'est un rituel qui permet à la société de se recomposer quand il manque un de ces éléments. Et donc, on a une sorte de renversement qui se passe actuellement avec une sorte d'injonction à ce que le futur défunt, les vieux, s'occupent de ses propres obsèques. Hein, c'est tous les publicités que reçoivent les gens au bout d'un certain temps sur les contrats d'obsèques, etc. Mais c'est un total contresens anthropologique. C'est assez difficile. Et je trouve que le paradoxe est parfaitement illustré par un livre que je venais de recevoir, parce que c'est à l'occasion de la Toussaint qu'on sort des livres sur la mort. C'est un livre de Philippe de Tonnac, là, et dont le titre lui-même est un paradoxe extraordinaire. C'est « À l'heure de votre mort, que ferez-vous de votre corps ?» Mais à l'heure de sa mort, on ne dispose plus de son corps. On n'est plus là. Et dans tous les cas, ça n'a aucune importance. Ce qui a de l'importance, c'est pour ceux qui restent. Et donc, c'est quand même à eux de choisir, c'est à eux de décider de ce qui est le plus facile pour eux. Et quand je parlais de non-respect des dernières volontés, j'ai cité un exemple extrêmement précis. Il y a 63% des gens qui ont choisi la crémation qui souhaitent une dispersion de leurs cendres. Très, très majoritairement. Hein. Donc, ils souhaitent une sorte de néantisation. Je risque d'être une charge jusqu'à ma fin de vie, etc. Donc, je voudrais, après ma mort, peser le moins possible. Eh bien, dans la pratique, il y a moins de 30% de dispersion. Donc, entre les deux, il y a bien le non-respect des dernières volontés, tout simplement parce que les cendres, à quoi elles servent, le lieu où on va les déposer, c'est un lieu dont les gens ont besoin pour accepter l'inacceptable, c'est-à-dire les disparitions de quelqu'un qu'ils aimaient. Et vous allez, juste le jour de la Toussaint, sur les jardins du souvenir, où on est censé avoir justement dispersé sans laisser aucune trace, ben les gens effectuent des rituels un peu bizarres, ils marchent, ils comptent leurs pas, etc., pour retrouver exactement l'endroit où on a dispersé les cendres et là où ils vont mettre un chemin de rose pour se souvenir. Donc tout n'est pas toujours simple. Alors
justement, une fois qu'on a dit ça et au vu des différentes techniques qui sont à l'étude actuellement dans différents pays, la question de la sépulture, qu'est-ce qu'elle devient dans toutes ces questions-là ? Parce que dans le cadre de l'humanisation, typiquement, bon, on est aussi sur un espace mal défini. Et finalement, la sépulture, vous le rappelez dans votre livre, c'est un des fondements de notre humanité. Donc c'est quelque chose dont on se sépare de plus en plus ou qui est moins important qu'avant ?
Alors, il ne faut pas non plus idéaliser la sépulture Le cimetière actuel, tel qu'il a été idéalisé dans les cimetières de la fin du 19e, début du 20e, avec les chapelles, avec les monuments importants, etc., c'est une parenthèse de l'histoire. Rien qu'en France, d'abord, la crémation a été autorisée jusqu'à un capitulaire de Charlemagne, hein, donc a été pratiquée en France. Ensuite, on utilisait les charniers, hein, le tout un chacun, hormis les rois et les saints, mais les saints, ils étaient coupés en petits morceaux pour mettre des reliques un peu partout. Mais les autres, ils allaient dans un charnier, c'est-à-dire ils allaient dans un recouvert d'une mince couche de terre, dans une sorte d'énorme fosse commune.
Ouais.
Et puis quand les ossements qui ressortaient, on les prenait et on les mettait dans des greniers autour. On n'avait pas de cimetière individuel. Etc. Ça, c'est une création tout à fait récente. Donc n'idéalisons pas la sépulture. Les choses...
Est-ce que vous diriez, je vais m'adresser à vous trois là, sur cette question-là, est-ce que finalement ces évolutions rituelles qu'on constate actuellement, en tout cas ces questionnements, ces réflexions, elles sont compatibles avec le respect qu'on doit à nos morts, ou en tout cas qu'on estime devoir à nos défunts, nos défuntes ? Miguel Jean.
Ouais, la cocotte minute là, que vous avez montrée juste avant avec cet homme au sourire béat et ravi de sa prouesse technique, ça met mal à l'aise parce que je ne vois pas la place des proches dans ce process industriel. Je vois des installations remarquables, mais je ne vois pas comment on peut accompagner un enfant qu'on vient de perdre ou un conjoint, une conjointe. C'est là où j'ai du mal, mais je peux avancer dans ma réflexion, mais je vois mal. La sépulture, moi, ça me va assez bien parce que ça fait un lieu de mémoire, un lieu de rendez-vous, un lieu de prière, un lieu de recueillement. Voilà. Ce côté moderne, ma crainte, je vais vous dire, c'est que la société considère que ces espaces qu'on appelle les cimetières, qui sont surpeuplés, notamment en région parisienne, mais vous serez plus évidemment compétent que moi pour le dire, mais dans la région nantaise, ça commence, compte tenu de la population, à devenir une vraie, vraie préoccupation. Je ne voudrais pas que ce soit une logique utilitariste qui prenne le dessus pour gérer l'ingérable. Voilà. Au détriment de cette prise en compte de la personne et du respect qu'on lui doit, même au-delà de son décès, et faisant écho notamment à ce que peuvent revivre les proches. Hein.
Et sans occulter la question de toute la symbolique autour de la mort. Mais justement, c'est une question assez intéressante. Comment dans nos sociétés qui sont devenues marchandes, qui sont devenues scientifiques, on conserve cette part de symbolique qui nous aide à dépasser et à vivre finalement ces événements, enfin un événement comme la mort. François Michonnerard.
En travaillant beaucoup... Et alors, sur la cocotte minute, il y a tout un rituel là autour. Hein. Le gars est très très malin et très intelligent.
Et donc
il a créé, c'est-à-dire la fameuse cocotte minute. Elle est dans une salle visible, hein, dans laquelle on peut voir l'introduction, comme on pourrait le voir dans un crématorium, ou comme on peut voir la mise en terre dans le cadre de l'inhumation, et tout se fait dans des lieux très beaux, avec la symbolique de l'eau, hein, parce qu'il y en a la symbolique du feu, la symbolique de la terre, là c'est la symbolique de l'eau, comme on pourrait avoir la symbolique de l'air, enfin on a des... Tout ça, c'est très travaillé. Et c'est pas du tout violent, et ça peut être aussi, pour certaines personnes, dans un imaginaire très intéressant, hein, je crois. Là, j'avais vraiment parlé technique, mais il ne faut pas oublier naturellement l'aspect rituel et l'aspect cérémoniel. Et on fait des choses formidables. Vous parliez des enfants. La question de la mort périnatale, par exemple, c'est une question qui est devenue absolument majeure, puisque au fur et à mesure que la science a réussi à gagner contre la mort des enfants, juste quand je suis né, il y avait un enfant sur 20 qui n'atteignait pas un an. Un enfant sur 20 qui n'atteignait pas un an. Hein. Et donc la mort périnatale était omniprésente. Maintenant, c'est devenu extrêmement rare. On ne peut plus en parler. C'est absolument terrible. Donc, d'où l'importance de créer des rituels, de faire des choses. Et par exemple, un des problèmes qu'il peut y avoir avec la crémation, c'est que la crémation ne laisse pas de cendres d'un enfant. Le corps de l'enfant n'est pas calcifié. Enfin, les os ne sont pas calcifiés. Donc, quand il y a crémation, il ne reste rien. Or, le rien est insupportable. Donc, on a travaillé, par exemple, pour créer des médaillons qui sont à l'initiale de l'enfant, que les parents peuvent déposer sur le petit cercueil avant la crémation. À la fin de la crémation, on va recueillir ce médaillon qui va être flammé, qui aura participé à la crémation, qui sera investi de la mémoire de l'enfant, qui va être dans une petite urne, qu'on va pouvoir mettre dans un columbarium, etc. Et là, on a, et justement dans ce type de mort qui est de plus en plus, enfin, qui est absolument terrible, on a terriblement besoin de traces. On a besoin de lieux, on a besoin de quelque chose pour se rendre compte. Donc, bien sûr qu'on travaille sur les rites, etc. Mais la question étant, à l'heure de notre mort, qu'est-ce qu'on peut recycler et faire ? C'était aussi intéressant de voir l'aspect technique, parce que l'aspect technique existe. Et c'est un aspect politique également. Hein.
Et qu'on ne visualise jamais. Mais qu'on a peine à imaginer. Une dernière question avant de vous donner le micro, la parole pour vous, Karim Sitayeb, puisque vous travaillez sur des cellules souches. Et là, on va toucher à tout ce qui a trait au transhumanisme, qui est quelque part un gros mot, puisque finalement très, très, enfin, très présent dans nos réflexions, mais très absent concrètement dans la réalité. Mais à quel point toutes ces réflexions qui sont permises, ces espoirs hein, permis ou peut-être vendues par le transhumanisme, à quel point est-ce qu'elles ont transformé notre rapport à la mort aujourd'hui ? Puisque finalement, le transhumanisme, c'est cette idée selon laquelle on ne meurt pas, ou en tout cas, on ne veut pas mourir le plus tard possible.
Mais là, il y a une espèce de détachement entre notre conscience et le corps, un peu. Dans le sens où il y aurait cette idée que le corps est un vecteur de notre conscience, qu'on pourrait, par exemple, télécharger dans une machine pour pouvoir garder nos souvenirs, nos émotions et disposer de nos corps, ou le télécharger dans un autre corps, comme ça a été évoqué dans Altered Carbon. Donc, du coup, il y a cette séparation entre deux entités qui ne sont pas séparables jusqu'à maintenant, qui ne sont pas. Et donc, je ne sais pas après comment ça, dans l'idée où on arriverait à ce stade, comment ça impacterait la prise en charge des corps ou les rituels autour de la mort du corps qui n'est plus lié à la mort de la conscience.
Ah, c'est une question qui est posée aux deux autres invités.
Donc, non, on va poser la question à la salle, ça me semble un bon point de départ pour démarrer les échanges.
Pourquoi pas ? Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Je suppose que oui. Alors, ouais, ok, le micro va circuler, monsieur. On commence là-bas ?
Oui, ah, bah, je l'ai moi ici. Oh, allez-y. Bonjour. J'aurais une petite question à diriger. Désolé, votre nom ne s'affiche pas, je ne l'ai plus en tête, mais au professionnel de la mort que vous êtes. Quand vous avez évoqué le changement anthropologique qui s'était fait, du fait qu'avant, que dorénavant, ce sont les personnes qui vont mourir qui décident elles-mêmes du processus final, la réflexion m'est venue en vous écoutant. C'est peut-être parce que deux idées me sont venues. C'est peut-être parce qu'avant, ça allait de soi, la manière. Il n'y avait pas le choix. Vous dites jusqu'en 1905, c'était obligatoirement l'enterrement. Donc, il n'y avait pas le choix. Et du fait que maintenant, le choix existe, bon, il n'y en a que deux en France, mais c'est peut-être pour justement éviter que ce soit la famille de choisir et d'éviter les enterrements où les obsèques sont toujours des lieux où les émotions sont à vivre. Donc, des fois, quand tout se passe bien, il y a des brouilles dans la famille, dans les proches, etc. Donc, d'éviter que ce soit à la famille de décider. Et que, par exemple, le fils dise bah, « non, il voulait être enterré », la fille dise bah, « non, moi, il m'a dit qu'il voulait être incinéré ». Et que ce soit réglé. Donc c'est peut-être aussi du fait que maintenant ce choix existe et d'éviter que ce soit la famille de se déchirer, de discuter de choses.
D'accord. Alors clairement, ce n'est pas parce qu'on a le choix qu'il y a eu ce changement-là. Puisque la loi sur la liberté des funérailles il date de 1889 et que jusqu'en 1970-80, c'était moins de 1% de la pratique, la crémation. Donc c'est pas parce qu'il y avait le choix que les gens ont choisi la crémation. C'est un phénomène qui est beaucoup plus nouveau, qui date d'il y a 30 ou 40 ans. C'est vraiment un phénomène d'individuation. Les gens veulent de plus en plus de la personnalisation, ils veulent exister et ils veulent continuer, ce qui est nouveau, d'exister par-delà la mort. On parle beaucoup, si vous recevez de la publicité pour les contrats d'obsèques, dans tous les cas, il y aura toujours une vision de la part des publicitaires, une vision totalement altruiste. Ce sont les grands-parents qui s'occupent de leurs enfants, qui ne veulent pas laisser la charge, etc. En réalité, il y a aussi très souvent de la part de ceux qui souscrivent un contrat d'obsèques, qui donnent des directives sur leurs propres funérailles, quelque chose d'une volonté totalement égoïste, qui est de continuer de vouloir exister, y compris en embêtant leurs proches. Hein, ça existe. Et la caricature, c'est un contrat d'obsèques qui avait été souscrit auprès de nos services, où la dame, je ne blague pas, ce n'est pas une caricature, c'est la vérité vraie, elle a prévu la couronne avec le bandeau à ma maman. Je ne sais pas ce que penseront les enfants quand la dame décédera, mais ce n'est pas un cadeau qu'elle leur fait. Hein.
Justement, si je peux juste ajouter, moi au contraire, il m'avait semblé lire l'inverse, c'est-à-dire qu'il y avait aussi des personnes qui justement s'orientaient vers la crémation par peur de déranger leurs petits-enfants en ayant un lieu de sépulture et en se disant, bon, c'est peut-être mieux si je disparais sur une sorte de pression sociale qui n'existe peut-être même pas, mais qui ont intériorisé le fait qu'elles étaient indésirables dans la société, on les met en maison de retraite, on les éloigne.
Ça, clairement, quand on interroge les gens pour savoir pourquoi ils choisissent la crémation, pour eux-mêmes, hein, ça doit être à 40 et quelques pourcents, c'est pour ne pas peser sur les proches, et à une petite trentaine de pourcents, c'est entre 25 et c'est pour des raisons écologiques. Donc quelque part pour ne pas peser sur la planète. Mais c'est vraiment cette volonté d'être néantisé, de ne pas peser. Et c'est, enfin, je pense, vrai, enfin, tout à fait dans la ligne droite de ce que vous disiez. Les gens se projettent dans leur fin de vie comme devant être une charge. Et donc, au moins après la mort, ils ne pèseront pas.
Donc, cette idée de ne pas peser sur la planète, finalement, c'est une idée qui est déjà intégrée auprès des gens individuellement, mais beaucoup moins par les pouvoirs publics. C'est un petit peu la conclusion. Deuxième question.
Ouais, bonjour, je suis ici. J'avais une question pour François Michonnerard, que par ailleurs je suis ravi de voir ici venir faire le show, puisque c'est assez rare d'avoir ce type de personnage. J'ai travaillé dans le secteur funéraire, donc je vois très bien qui vous êtes. J'avais une question un peu sur la question de la crémation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a, comme vous le savez, une offre qui est bien en deçà de la demande, c'est-à-dire que les crématoriums sont complètement dépassés et c'est parfois très compliqué d'obtenir une place, si je puis dire, pour une crémation, pour une cérémonie funéraire, parce qu'il y a énormément de gens qui ne souhaitent pas voir pousser un crématorium à côté de chez eux, et un peu comme les éoliennes, hein, donc ce qui, moi, personnellement, donne envie de distribuer vigoureusement quelques coups de pied. Mais par ailleurs, c'est vrai que ça peut être très moche, comme il y a des gros cubes où c'est vraiment un four et c'est rien de mieux. Il y a des choses très belles aussi. Vous avez cité le crématorium de Champigny, qui pour moi est un bel endroit, même si on vient rien y faire d'heureux. C'est quand même un endroit qui est beau, dans lequel on peut se recueillir. Donc comment on arrive à pousser sur ces questions-là, notamment institutionnellement, à faire avancer cette problématique-là? Et par ailleurs, doublement, est-ce qu'on pourrait mieux valoriser l'énergie qui est produite à travers la crémation? C'est-à-dire, moi, ça m'irait très bien, à travers la mort, de contribuer à chauffer un immeuble au chauffage central. C'est-à-dire, c'est une énergie qui est perdue. Là, vous l'avez peut-être entendu parler, il y a la ligne 11 du métro parisien qui va servir à chauffer, la chaleur dégagée va servir à chauffer des immeubles. Bon, est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait envisager, même si ce n'est pas très politiquement correct? Peut-être que ça choquerait des gens. Comment on avance sur ces questions, notamment de votre position?
Voilà. Alors, effectivement, sur la création de crématorium, il se trouve que j'étais venu puisque à Nantes pour défendre, aider à défendre la création du nouveau crématorium au sud de Nantes qui enfin va sortir. Donc, mais on est en plein phénomène NIMBY, hein, not in my backyard. Tout le monde sait qu'on a besoin de ce type d'équipement, mais surtout pas à côté de chez soi. Ça, c'est une problématique qui est assez universelle pour plein de choses. C'est pas spécifique au crématorium. Mais il y a une chose sur laquelle, en tout cas, qui est absolument indispensable. Il y a maintenant quasiment la moitié de la population qui termine sa vie dans un crématorium. Il est indispensable que ces bâtiments soient aussi dignes que ne peuvent l'être nos églises, les temples. Ça doit être des bâtiments publics de grande qualité et les pouvoirs publics doivent participer, la collectivité participer à la création de beaux bâtiments, de bâtiments symboliques, de bâtiments qui aient du sens. Sur la question de la récupération de l'énergie, puisque là on revient à quelque chose d'assez technique, ça fait 15 ans que le... Non, 12 ans que le crématorium du Père Lachaise récupère l'énergie qui est des appareils de crémation pour chauffer au moins le bâtiment. Et vous avez tout à fait raison, on pourrait utiliser cette énergie. C'est une responsabilité environnementale, c'est une responsabilité sociale, c'est une responsabilité civique que de ne pas aggraver l'effet de serre en jetant des calories qui, dans tous les cas, sont disponibles dans l'atmosphère. Donc, ces calories-là, ben, au moins les utiliser pour chauffer les crématoriums. Mais maintenant, je pense que tous les crématoriums qui se créent récupèrent l'énergie, au moins pour le bâtiment lui-même.
On a encore le temps pour une ou deux questions rapidement, très rapidement.
Oui, bonjour. C'est concernant les composants du corps humain après... après les différents types de rites funéraires appliqués sur ce corps, je pensais notamment à l'humuisation, dans lequel il suffit d'enterrer le corps dans une espèce de sac, d'après ce que j'ai compris, pour que la terre récupère les composants et puisse en profiter. Mais j'avais entendu dire quelque chose qui m'a un peu surpris et désolé, c'est que notre corps aussi bien comporte des composants qui sont absolument nécessaires à la nature, mais comporte également une très faible proportion de composants dits toxiques, notamment des métaux lourds. Et je me demandais, dans cette mesure-là, comment on fait quand on se retrouve avec un corps qui possède son composant-là. Est-ce que la proportion est suffisamment négligeable pour qu'on l'ignore? Mais je me dis que dans le cas d'espace où on applique les rites funéraires, on se retrouve avec des dizaines, voire des centaines de corps. Est-ce que là, la proportion devient suffisamment importante pour qu'on se dise, individuellement, ça représente rien, mais là, on est quand même avec une centaine de personnes. Là, ça représente quelque chose de suffisamment inquiétant pour qu'on s'en occupe.
C'est pas éthique, c'est technique, c'est pour nos collègues, là.
Vous refilez pas la patate.
Non, mais la question, là, tout de suite, une réponse intelligente à faire, sûrement pas, mais la question est extrêmement pertinente, ça c'est une réalité.
Désolé, du coup, on n'a pas de réponse plus étoffée. C'est à l'étude, en tout cas. On étudie des nouveaux procédés, donc j'imagine que c'est des questions qui vont se poser très rapidement dans le cadre de ces observations. Est-ce qu'on a le temps pour une toute dernière question à la régie? Oui. Ok.
Bonjour. Aujourd'hui, des gens commencent à réfléchir à la virtualisation de la mort, en fait, avec des cimetières virtuels, par exemple, avec la VR, etc. Vous en pensez quoi? Est-ce que c'est une bonne solution?
Je pense que ça peut être le pire et le meilleur. Le meilleur, c'est quand il y a la possibilité, par exemple, sur un compte spécial, de déposer des hommages, de déposer des photos, etc., pour créer une sorte d'album virtuel qui soude une communauté autour d'un produit qu'elle va créer en commun. Et donc ça, c'est quelque chose qui peut être formidable. Mais à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Et à un moment donné, il faut que le virtuel redevienne quelque chose de matériel, qui se devienne trace. Le pire, c'est les start-up, quelques start-up, des gens qui ont eu l'idée, par exemple, de proposer à des défunts d'enregistrer des messages, de créer leur avatar numérique qui, tous les 6 mois ou tous les 3 mois, etc., viennent interpeller les vivants pour leur délivrer un message, etc. C'est, pour moi, c'est l'abomination absolue. Voilà. Donc, on peut avoir le pire et le meilleur, comme pour beaucoup de choses dans le numérique.
Une heure s'est écoulée déjà depuis le début de cette table ronde. Je vous remercie de votre attention à toutes et à tous. Et évidemment, nos 3 intervenants, si vous souhaitez poursuivre un peu la conversation, poser vos questions pour les quelques personnes qui n'ont pas pu le faire, restent dans le coin, donc vous pouvez les interpeller. Merci beaucoup.